religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religions du Monde, à Lyon, le ramadan vient réchauffer le moral des étudiants isolés. Le regard d'un historien sur les religions face aux pandémies et puis parution du rapport 2020 de l'AED, l'aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse dans le monde. Un pays sur trois est concerné par les violations de ce droit fondamental contre 1 sur 5 en 2018. Dans cette crise sanitaire, Azzedine Gassi, recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne et enseignant-chercheur en physique quantique à l'École supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon, est particulièrement sensible à la question de la solitude des étudiants, surtout ceux venus d'Afrique et du Maghreb. Le 27 mars, avant le ramadan, il avait organisé avec le curé d'une paroisse proche de sa mosquée un repas solidarité étudiant. Et depuis le début du ramadan, les étudiants peuvent venir chercher des repas à emporter. Azzedine Gassi est une figure de l'islam de la région Rhône-Alpes. Il a été de 2005 à 2011 président du CRCM, le Conseil régional du culte musulman. Très engagé dans le local, homme de terrain, il défend une vision décentralisée, départementale de l'organisation du culte musulman. C'est pourquoi il avait refusé en janvier dernier de signer la charte des principes pour l'islam de France, défendue par Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, un conseil actuellement en crise. Azzedine Gassi, bonjour.
Bonjour.
Voilà pour votre présentation. Je le disais, par votre métier d'enseignant, vous êtes très conscient du désarroi de certains étudiants dont le moral est très bas.
Effectivement, c'est un grand campus. Hein. C'est le campus de la Doua, dans lequel on trouve plus de 35 000 étudiants. Donc, c'est une ville dans la ville. Hein. Et parmi tous ces étudiants, vous savez, la situation de pandémie, tous les cours pratiquement se font par Zoom. Et donc, on n'a pas le temps de rencontrer les étudiants. C'est pourquoi nous avons organisé le 27 mars, effectivement, avec la paroisse de la Sainte Famille qui est juste à côté de la mosquée. Et ensemble, pour dire que les religions travaillent ensemble, main dans la main, pour venir en aide à des étudiants qui sont en détresse, qui sont en solitude et qui vivent parfois dans l'isolement.
Alors, ce repas, donc, c'était juste un repas ou bien il y avait effectivement des dons qui pouvaient être faits?
Donc, ce n'est pas des repas, c'est des colis alimentaires, 530 colis alimentaires. Mais il y a d'autres associations qui se sont greffées au projet. Il y a par exemple un restaurant sénégalais qui a donné plus de 300 de restaurants pour un repas. Il les a distribués aux étudiants, plus de 300. Donc, un repas qui coûte autour de 10 euros. Et à côté de cela, il y avait un kit sanitaire et beaucoup d'autres choses. Bref, les étudiants étaient ravis. On avait même proposé avec la mairie de Villeurbanne, on avait même proposé quelques travaux pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas une bourse, véritablement.
C'est ça, oui, vous voulez dire des offres d'emploi, en fait.
Des offres d'emploi, oui.
Alors, aujourd'hui, donc, on sait que les mosquées, contrairement à l'année dernière, bon, sont ouvertes hein, pour le ramadan. Dans le même temps, bon, il n'y a pas de possibilité de se retrouver le soir pour la prière. Et puis, pas de question, évidemment, de fêter l'iftar, hein, de célébrer l'iftar, comme ça se passe généralement, un repas communautaire, etc. Notamment, là, je pense à la shorba, hein, la shorba pour tous. Alors, ces étudiants, est-ce qu'ils ont malgré tout quelques bénéfices, j'allais dire, du ramadan, qui est un mois, effectivement, de convivialité hein, et de partage?
Beaucoup. Écoutez, nous nous sommes dit s'il y a une année où il faut proposer quelque chose à ces étudiants qui vivent encore une fois dans l'isolement, dans la solitude, c'est cette année. Soit on le fait cette année, soit on ne le fait pas du tout. Et c'est pourquoi la mosquée distribue chaque jour en moyenne 600 repas. Hier c'était 700, aujourd'hui c'est 600 repas. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'étudiants musulmans qui viennent en cette période de ramadan où le soir ils n'ont pas le temps de préparer un repas, sortir, rencontrer des gens, discuter, etc. C'est très chaleureux parce que c'est la période du ramadan et ça nous manque effectivement ces moments de partage, ces moments de convivialité, où l'on mangeait ensemble, on discutait ensemble, on rigolait ensemble. Tout ce côté-là du ramadan nous manque véritablement parce que les mosquées sont certes ouvertes, on va dire semi-ouvertes parce qu'elles ne sont pas ouvertes pour le moment de rupture du jeûne où les gens se retrouvent justement dans ces moments de partage, de solidarité, de générosité qui manquent terriblement aux musulmans aujourd'hui.
Oui, mais alors justement, comment concilier pour les étudiants à la fois cette aide que vous leur donnez, mais aussi les mesures sanitaires? Comment concilier les deux?
ils viennent pas manger à la mosquée, hein. C'est des repas qui sont préparés et qui sont distribués dans le strict respect des règles sanitaires et des règles de distanciation. Donc la distribution, il y a des cuisinières, une vingtaine de cuisinières qui viennent chaque jour à la mosquée cuisiner de 7h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Ensuite commence la distribution à partir de 16h jusqu'à 18h30 pour laisser les étudiants le temps de rentrer chez eux à la cité universitaire ou dans les studios dans lesquels ils habitent.
Oui, mais en même temps, ils sont seuls, ils vont dîner seuls.
On peut pas y
Oui.
faire parce que le
Oui.
couvre-feu, ils vont respecter le couvre-feu malheureusement, mais ils ont le temps de venir à la mosquée. Les distributions ne sont pas toutes à la mosquée. Il y a une partie qui est distribuée à la mosquée, il y a une partie qui est distribuée juste à côté de la doua où ils habitent. Donc on va chez eux. Quand ils peuvent pas venir, on est prêt à leur livrer ce repas. L'essentiel, c'est que pour nous, en cette période bénie du Ramadan, il faut pas qu'il y ait des gens qui soient dans le besoin. Il faut absolument faire tout pour que tout le monde puisse manger, quel que soit, encore une fois, je ne fais pas de différence, quelle que soit leur appartenance religieuse, ethnique ou philosophique. Le mois de Ramadan, c'est le mois du don, c'est le mois de la générosité, c'est le mois du partage par excellence. Et il faut tout faire pour venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont nécessiteux, à tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et je pense que ceux qui ont le plus besoin d'aide aujourd'hui, ce sont les étudiants justement, et plus particulièrement ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, le Mali, le Tchad, le Sénégal, qui ont vraiment, vraiment besoin de notre aide.
Alors, Azzedine Gassi, là, nous avons parlé des repas, hein, de l'iftar. Concernant le jeûne, vous avez donné une belle définition du jeûne pendant le mois du Ramadan. Vous dites, c'est prendre soin de sa vie spirituelle.
Oui, c'est le mois de la privation, privation de soi. Moi, je donne aussi une autre définition, c'est se priver soi pour se donner totalement aux autres. Et ça, c'est à travers les repas que nous distribuons chaque jour. Mais c'est le mois de l'introspection, c'est-à-dire qu'il faut prendre sa vie spirituelle en main. C'est le mois de l'élévation spirituelle. C'est le mois où l'on apprend à maîtriser son corps pour libérer son cœur, justement. Apprendre à vivre dans la proximité de Dieu, apprendre à se maîtriser, maîtriser ses pulsions, ses tensions et ses démons intérieurs. Bien sûr, ça, il faut le faire toute l'année, mais on est plus disposé à le faire pendant le mois de Ramadan.
Alors, en marge, Azzedine Gassi, de la question spirituelle, hein, vous êtes, je le rappelais, une figure de l'islam de la région Rhône-Alpes, hein, vous avez été le président du CRCM, le Conseil régional du culte musulman. En janvier dernier, avec le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, vous avez refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France, qui était donc portée par Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, l'instance nationale de l'organisation de l'islam en France. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui, Azzedine Gassi?
Alors, je rappelle que la charte, nous avons refusé de le faire parce que la façon dont ça a été fait, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus accepter. Hein. C'est que toutes les choses qui viennent d'en haut, nous ne les acceptons plus. C'est ça qui est à la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en tant qu'institution représentative de l'islam de France. Ils auraient dû nous consulter, travailler avec nous pour que nous puissions faire les choses ensemble. Et moi, je me réjouis aujourd'hui que tout le monde s'est laissé convaincre de la notion de la départementalisation. C'est-à-dire que l'organisation de l'islam de France ne peut plus se faire d'en haut, mais d'en bas. D'en bas et en haut. Et aujourd'hui, on est en train de préparer justement les assises de la départementalisation au sein des préfectures. Ce matin, j'étais en contact avec les préfectures pour commencer justement à préparer cette réunion très importante que l'on va faire à la préfecture du Rhône au mois de mai prochain et dans laquelle on va regrouper toutes les mosquées pour mettre en place un conseil départemental du culte musulman. Ensuite, c'est comme ça que nous voyons les choses. Il y aura un conseil départemental par département. Ensuite, ces conseils départementaux des mosquées du Rhône vont mettre en place, vont élire des grands électeurs, si vous voulez, qui vont se retrouver au niveau national et qui vont constituer l'Assemblée générale de cette instance représentative de l'islam de France. Ensuite, ces grands électeurs vont élire un conseil d'administration de cette instance et le président de cette instance représentative de l'islam de France va être choisi au sein de ce conseil d'administration qui aurait été élu par les grands électeurs qui eux-mêmes auraient été choisis par les conseils départementaux. Je pense que c'est la seule solution si l'on veut quelque chose qui soit vivable, viable, durable, solide et qui soit acceptée. Et c'est la plus démocratique, effectivement. Et c'est de cette manière et de cette manière seulement que l'on pourra mettre en place une institution forte, solide et qui soit acceptée et respectée par tout le monde.
Qui remplacera à terme le CFCM, à court terme d'ailleurs. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman.
On l'appellera Conseil français du culte musulman ou autre chose, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est que l'organisation de l'islam de France se fasse de bas en haut et ne pas de haut en bas et qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs que l'on a fait en 2003 lorsqu'on a commencé par choisir le président du CFCM. Ensuite, on est descendu en bas. C'est d'ailleurs pour cette raison que le CFCM aujourd'hui est complètement immobile, immobilisé à cause des tensions internes entre les fédérations. Je pense qu'il faudrait écouter les personnalités, les mosquées qui sont sur le terrain, qui font un travail extraordinaire et qui savent ce qu'ils font. On organise des conseils départementaux au sein des départements et ensuite on montera pour représenter celui qui va parler au nom de tous les musulmans de France. Il sera d'autant plus respecté, d'autant plus écouté. Et il sera aussi d'autant plus représentatif, effectivement, de ces 6 millions de musulmans que compte la France.
Azzedine Gassi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne. Cette rediffusion, nous allons réentendre l'historien des religions Philippe Martin, professeur à l'Université Lyon 2, qui a signé aux éditions du CERF les religions face aux épidémies de la peste à la Covid-19. De la peste antique et médiévale au coronavirus, en passant par la variole, le choléra et bien d'autres maladies, Philippe Martin nous convie à un grand voyage dans le temps et à travers les religions face à ce mal invisible et incompréhensible que furent pour les religions les épidémies. Des cathédrales gothiques du Moyen-Âge aux pagodes bouddhiques, en passant par les synagogues et les mosquées, Philippe Martin livre dans cette étude magistrale la réponse qu'apportèrent les religions face à cet ennemi longtemps perçu comme un châtiment divin. Et c'est par le courroux du ciel que s'ouvre précisément le livre.
Oui, en effet, quand on a une épidémie, les gens ne découvrent pas tout de suite d'explications. Les explications médicales pendant longtemps sont absentes et l'épidémie a la particularité non seulement de faire des morts, mais aussi de tout désorganiser. Donc il faut trouver des explications. Il faut trouver des explications tout simplement pour s'apaiser. On ne peut rien faire face à l'épidémie, mais au moins si on a une explication, si on retrouve une logique, on a l'impression de reprendre la main sur les événements. Et la première explication qu'on a trouvée, c'est en effet le ciel manifeste sa colère. Alors là, on a une foule de théologiens qui ont une foule d'idées pour expliquer les choses. Alors il y en a un, par exemple, qui explique que Dieu est très très bon. Alors bien évidemment, il dit oui, Dieu est bon, mais comment expliquer les épidémies ? Ben, il dit finalement, Dieu a créé les épidémies, mais il les tient dans ses mains, il les tient enfermés dans ses mains. Mais l'homme, à chaque fois qu'il commet un péché, à chaque fois qu'il met une injure, à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, desserre les doigts de Dieu. Et au bout d'un moment, les doigts de Dieu sont tellement libérés que l'épidémie tombe sur les hommes. Donc les hommes sont indirectement responsables du courroux divin. Et ça, c'est quelque chose qui va exister pour la peste et encore pour le choléra au XIXe siècle.
Philippe Martin, quand on regarde des chiffres, par exemple de la peste noire, donc au XIVe siècle, qui aurait décimé 25 millions pour la seule Europe, malgré tout, cela donne une autre mesure de la pandémie du Covid.
En chiffres, enfin, face à l'épidémie, il faut pas raisonner uniquement en chiffres bruts.
Oui.
Même aujourd'hui, face à la Covid, la grippe ou le cancer va tuer plus de gens. L'épidémie, il faut la penser non seulement en nombre de morts, mais aussi en désorganisation des sociétés. Et c'est ça qui rend l'épidémie incontrôlable ou difficilement contrôlable, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, une des grosses difficultés face à la pandémie, c'est comment traiter les gens, les hôpitaux qui sont surchargés et tout. Mais ce qui est tout à fait symptomatique de la Covid, c'est que les explications ont changé. Autant dans la peste médiévale ou du début de l'époque moderne, la colère de Dieu est là. Autant aujourd'hui, les gens, nos sociétés, quasiment partout dans le monde, ont bien fait la distinction en ce qui relevait du médical et ce qui relevait du religieux.
Ça, c'est le grand progrès, évidemment.
Ah, ça, c'est, voilà, c'est quelque chose très, très, très net. Quasiment tout le monde a dit, voilà, l'épidémie est quelque chose de naturel et tout. Sauf, et là, le sauf est important, sauf un certain nombre de courants. Et l'épidémie, et le dialogue sur l'épidémie, les explications données, va être extrêmement révélateur de ce qui se passe à l'intérieur des religions. Par exemple, deux cardinaux se sont opposés très ouvertement au pape, en disant, mais de toutes les manières, la pandémie est quelque chose qui est la colère de Dieu. La preuve, alors bien évidemment, on met des guillemets à preuve, parce que je reprends les arguments de ces deux cardinaux. La preuve, c'est que la pandémie commence le 50e anniversaire de la nouvelle messe. Dieu a puni le monde, tout simplement, parce que on a un nouvel type de célébration, le nouveau rite de la messe. Bien évidemment, ces deux cardinaux s'opposent au pape aussi sur la politique, par exemple, vis-à-vis du climat, ce qu'on appelle la théologie verte, condamnent le pape aussi pour un certain nombre de propos sur la famille. Si vous voulez, les cardinaux sont sortis du bois, en quelque sorte, avec ces explications. Comme aux États-Unis, les évangélistes les plus radicaux se retrouve sur l'explication que la pandémie est une punition divine. Mais justement, ce sont les plus radicaux qui ont des positions dans la société contre le mouvement LGBT, contre l'égalité sociale, raciale, etc.
Également, en Israël, les ultra-orthodoxes.
Alors, la pandémie est non seulement révélatrice de ces tensions, et la pandémie est révélatrice justement des relations que les États ont avec leurs citoyens. On peut en gros diviser ça en deux catégories. Il y a des États où les religions ont complètement accepté les mesures de confinement et tout. Alors, on a un peu critiqué, on a un peu râlé, on manifeste, mais ça ne va pas loin. C'est le cas, par exemple, de la France. De manière générale, les religions ont accepté que l'État se mêlait d'un certain nombre de choses.
Voilà. Oui, que ce soit effectivement en France, du côté des musulmans, c'est pareil. Il y a une grande acceptation, même au moment du Ramadan.
Ah mais au moment du premier confinement, il faut se rendre compte que pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans, c'était les fêtes essentielles. Les fêtes essentielles. Et ça n'a pas posé énormément de problèmes. Voilà. Quitte à s'adapter. Vous vous rendez compte, pour les musulmans, l'appel à la prière et n'est plus « venez, venez et priez », mais est devenu « restez, restez et priez ». Donc les mouezzines ont continué à appeler à la prière, mais en disant aux gens « ne venez pas à la mosquée, restez chez vous ». Donc, on a ces états dans lesquels les religions, que ce soit des anciennes religions comme le christianisme ou des religions plus récentes comme l'islam, ont complètement collaboré avec la sphère sociale et politique.
Bah, il n'empêche qu'il y a quand même eu, lors du deuxième confinement, on l'a bien vu, une demande de messe, hein, notamment de la part de catholiques. Bon, c'est pas du tout la majorité, hein, mais il y a eu cette demande quand même. Voulons la messe.
Exactement. Dans nos États, il y a eu, enfin quand je dis nos États occidentaux, il y a eu lors du premier confinement une très bonne acceptation. Puis la sortie du confinement a commencé à être plus problématique. On a commencé à négocier, ah ben non, pas cette date, mais plutôt cette date parce qu'il faudrait qu'on puisse célébrer cette fête. Et le deuxième confinement de l'automne 2020, lui, a posé à nouveau d'autres problèmes, puisque les églises, en particulier certains catholiques, ont manifesté pour la messe. Mais regardez, lors du second confinement, beaucoup de groupes sociaux ont aussi manifesté, des groupes sociaux qu'on n'avait pas entendus lors du premier confinement. Hein, les restaurateurs, les magasins, quand est-ce qu'on doit rouvrir les magasins, est-ce qu'il faut penser à Noël, etc. Les religions sont exemplaires de ce que sont nos sociétés. Hein. Elles accompagnent les sociétés, elles font pleinement partie des sociétés. Quand les sociétés, quand d'autres groupes sociaux manifestent, commerçants, restaurateurs, etc., eh ben un certain nombre de groupes religieux manifestent. Dans cette crise, nous avons vu que dans nos États occidentaux, les religions fonctionnaient avec la société et l'État. Il n'y avait pas de fracture majeure. Par contre, il y a des États où ça s'est pas du tout passé comme ça. Et là, si on fait une typologie, on a trois attitudes possibles. On a une première attitude qui pourrait être résumée par ce qui s'est passé à Haïti. Lors du premier confinement, donc au printemps 2020, les églises, quelles qu'elles soient, vaudou, évangéliques, etc., se sont opposées aux mesures de confinement. Elles s'y sont opposées dans un premier temps en disant « ben nos temples vont rester ouverts ». Et puis au bout de 10-15 jours, ils ont fermé. Autrement dit, ils ont manifesté clairement une opposition, mais finalement en rentrant dans le rang. Il y a un deuxième type de pays, c'est le cas d'Israël, où là, des groupes, des minorités, se sont clairement et fermement opposés à l'État. C'est ceux qu'on appelle les craignants Dieu, les Haridim, en Israël, qui ont refusé toute mesure de confinement. Il y a eu des affrontements avec la police, des affrontements extrêmement violents, et ça a provoqué un accroissement de la rupture entre la population israélienne et les Haredim, parce que la majorité des gens touchés par la Covid en Israël sont des Haredim. Les Haredim considèrent que Dieu les protège, donc c'est pas la peine de prendre de mesures.
Et on a vu ce que ça a donné après, effectivement, au niveau de la propagation.
Et ça, on l'avait vu lors d'autres épidémies, moins grave, mais aux États-Unis, par exemple, dans les années 2000, il y a eu un certain nombre d'épidémies et des quartiers de Haredim ont été les plus touchés. Et puis, il y a le troisième type d'État encore, c'est le cas au Sénégal, où les églises ont clairement manifesté non. Voilà, on n'allait pas suivre l'État. Et le président sénégalais au printemps 2020, Macky Sall, a été obligé de céder face à un certain nombre de responsables de mosquées qui ont dit « mais de toutes les manières, nous on ouvrira ». Et Dieu nous appelle à ça, Dieu est plus important que le président et les médecins. Les médecins d'ailleurs ne savent rien, donc on opère de notre côté. Et la presse sénégalaise a titré « le président Macky Sall battu en pleine campagne ». Autrement dit, on a clairement identifié la levée du confinement de printemps, un échec politique. Donc vous voyez, le rapport des églises avec les sociétés est extrêmement révélateur des fragilités, des tensions qu'il y a à l'intérieur des sociétés.
Écoutez une rediffusion de l'entretien avec l'historien Philippe Martin à propos de son livre « Les religions face aux épidémies ». Alors, je reviens avec vous, Philippe Martin, à la partie historique de votre livre concernant le 14e, le 15e, le 16e siècle, le 17e siècle. Et là, c'est absolument passionnant pour deux raisons. La première, c'est que finalement, leur situation bien sûr nous semble éloignés de la nôtre, mais leurs réponses à l'époque, les stratégies qui ont pu être développées, finalement sont assez proches. Notamment, là je pense à la mise en quarantaine, hein, ça ne remonte pas effectivement au 21e siècle, mais aussi à des mesures préventives, comme par exemple les rassemblements religieux. Hein, justement, on en parlait, les rassemblements religieux étaient effectivement perçus comme des lieux de propagation, ce qui était pas mal finalement pour l'époque, quand on ne savait pas grand-chose sur la propagation d'une épidémie.
Oui, tout à fait. Quand on étudie les épidémies sur le temps long, on a quelquefois l'impression de se dire l'histoire se répète. Hein.
Exactement, voilà. Exactement.
Et finalement, c'est les hommes, c'est quelque chose de très anthropologique qu'on découvre là. Mais en effet, quand la peste a frappé, on a fermé les églises. On a fermé les églises. Alors, après, on a pu négocier. Alors, exemple de négociation, c'était de dire le prêtre va se mettre sur les marches de l'église, célébrer la messe et les gens sont sur la place avec des distances entre eux.
Oui, distanciation sociale, ça existait déjà.
Alors, ça existe déjà. Alors, on parle pas comme ça, mais c'est exactement ça. Comment aller confesser quelqu'un qui a la peste? On va pas l'amener à l'église. On va pas l'amener dans un confessionnal. Alors, on a eu des techniques et tout ça, c'était enseigné dans les séminaires jusqu'au 19e siècle, hein, qui est de dire, vous vous restez dans la rue et vous vous mettez à la fenêtre. Et le pénitent, lui, se met de l'autre côté de la fenêtre. Et même, vous pouvez tirer le volet pour qu'on ne se voit pas. Et comme ça, il peut y avoir une confession. Autrement dit, le prêtre a adapté le confessionnal, finalement, à la rue. Et quand c'était pas possible, eh bien, toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient protestantes ou catholiques, disaient, bon, finalement, face à l'épidémie, les gens s'y respectent pas, tous les éléments du culte, ce n'est pas grave, de toutes les manières, ils seront quand même sauvés. Et encore plus surprenant, c'est que les églises appuyaient les mesures des États. C'est-à-dire qu'on menaçait de l'enfer tous les fidèles qui ne respectaient pas ces distanciations sociales ou les règles qui sont les règles minimum d'hygiène ou sanitaires.
Donc on voit une église quand même à la fois qui travaille avec le ciel et en même temps est tout à fait consciente des réalités terrestres.
Parfaitement. Et jusqu'au 19e siècle, on enseigne aux séminaristes, mais ce serait la même chose pour les protestants, on leur enseigne qu'en cas d'épidémie, ils doivent être des aides aux États. Ils doivent être des aides de trois manières. D'abord, ils doivent porter de l'information. Oui. De l'information juste, ils doivent calmer les gens, ils doivent avoir un rôle, on dirait, de régulateur social.
Pas de fake news, pas de fake news, c'est bien ça.
Ah non, pas de fake news, non, non, voilà. il faut transmettre les choses, il faut donner aux gens quasiment des cours sur les mesures sanitaires et tout, hein. Ça c'est très très important, et on explique aux prêtres que, du coup, ils sont obligés de rester sur place, hein. Que s'ils ne restent pas sur place, ils commettent une très très grave faute et qu'il leur est interdit de continuer à célébrer la messe.
Hein. C'est ça, ils doivent se considérer comme des propagateurs possibles de la contagion.
Exactement. Non seulement des propagateurs, mais en plus des agents indispensables pour lutter contre la contagion. La deuxième chose qu'on demande au clergé, c'est d'aller au-devant des malades, d'aider les malades, d'avoir une action de charité, de soins. Et un des périodes où les structures médicales sont quand même beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui, les églises ont donc un rôle qui est un rôle essentiel là-dessus. Hein. Et le troisième niveau qu'on demande assez clair, c'est d'aider la logistique. Autrement dit, d'aider à l'installation de quarantaines, l'installation d'hôpitaux, etc. Donc les prêtres, les pasteurs se trouvent être à la fois des consolateurs, des chargés d'armes et puis aussi des administrateurs.
C'est ça, ils doivent éviter la panique, assister hein, les malades, organiser, créer de la cohésion. Ils ont un rôle effectivement majeur et qui leur est demandé souvent d'ailleurs par les échevins, c'est ça, les responsables municipaux.
Exactement, on a des ordres spécialisés dans le monde catholique, hein, alors plutôt la mouvance franciscaine, hein, et on va les rechercher en disant bah c'est bien parce que eux ils demandent pas d'argent, ils sont pas payés comme certains médecins et tout, puis ils vont jusqu'au bout de leur engagement, hein, parce que beaucoup de ces gens vont mourir au contact des malades, hein. Dans le monde protestant, on va désigner celui qu'on appelle le pasteur de la peste, c'est-à-dire dans une communauté, il y en a un qui est désigné comme celui qui doit se dévouer aux gens des épidémies et tout. Autrement dit, on a réellement une mobilisation et du coup, on va avoir un certain nombre de prêtres ou de pasteurs qui sont non seulement sont des administrateurs et des chargés d'armes, mais vont aussi être des médecins. Et certains ont des produits pour aérer les maisons, alors c'est-à-dire essayer de lutter contre la contamination, vont avoir des drogues, etc.
Ils deviennent effectivement des spécialistes. Alors, vous faites le portrait hein, d'un véritable organisateur, il s'appelle Baric. C'est au XVIIe siècle, quand la peste se déclare à Marseille. Il demande effectivement que les commerces soient, d'alimentation donc, soient surveillés, que les ordures hein, soient déplacées, soient enlevées hein, plus exactement, que les pauvres ne puissent pas se déplacer comme cela, etc. Enfin, il s'avère être un véritable organisateur.
Ah, il est un organisateur, il donne des conseils, il crée des hôpitaux, ou plutôt des maladreries, hein, des endroits où on met les gens en quarantaine, avec des conseils très très pratiques. Alors il est persuadé, il a tort, mais on peut pas le savoir à son époque, il est persuadé que les étuves sont extrêmement utiles pour lutter contre la peste. Donc il met ça en place, il distribue des drogues, il aurait même, disent les rumeurs à cette époque dans le sud de la France, il aurait même une drogue qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas tué par la peste lui-même. Hein. Et puis il va donner des tas de conseils aux habitants. Hein. Alors je vous donne un de ses conseils, hein. Il faut tenir sa conscience nette de tout péché mortel par le sacrement de confession et par les actes réitérés et fréquents de la vertu de contrition. Autrement dit, il incite les gens qui sont chez eux à devenir de bons chrétiens.
Et dans le même temps aussi, ces religieux hein, qui sont donc aux prises avec la maladie, avec la peste, vont conseiller, alors il n'y a pas de solution hydroalcoolique à ce moment-là, mais par exemple de se nettoyer les mains avec du vinaigre, enfin ils sont très concrets.
Ah, ils sont complètement concrets. Ils sont, alors, quand on lit aujourd'hui leurs prescriptions, on a tendance un petit peu à sourire. Mais ce sont les prescriptions des médecins.
Hein. Avec les moyens du bord.
avec ce qu'ils savent et tout. Et ils conseillent vraiment les gens, justement, de ne pas toucher n'importe quoi, d'aérer régulièrement les maisons, de faire des feux avec des plaies odoriférantes de manière à chasser la peste. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, Philippe Martin, c'est que ces mêmes personnes à la fois croient, ou en tous les cas, pour certains, font semblant de croire à la punition divine, tout en soignant. Parce que, il y a un discours ambiant encore sur la place de Dieu dans ce mal qui tombe dessus. Mais on voit bien que petit à petit, au XVIIe siècle, au tournant du XVIIe siècle, eh bien, ce discours, il passe moins bien. Que certains commencent à dire, mais non, c'est bien sûr la contagion, ça ne vient pas de Dieu.
Oui, on est un petit peu dans un discours qui va d'abord évoluer chez les médecins. Au XVIe siècle, les médecins, quand ils font des traités sur la peste, ils sont obligés de commencer. La première cause de la peste, c'est la colère divine.
Ils n'ont pas le choix, quelque part. Hein.
Oui, voilà, on a l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Il y a Ambroise Paré qui fait quelque chose en disant, grosso modo, il faut que je parle de ça.
Donc je vais le faire, mais bon, il parle après d'autres choses. Oui.
Ouais. Ils n'ont pas l'air très très convaincus.
Non.
Alors le clergé va suivre un peu cette habitude, et finalement on peut avoir l'impression de considérer que l'explication divine de la colère, c'est une explication qui rassure. J'allais dire, c'est une explication pour l'intellect. C'est une explication qui doit permettre aux gens de penser qu'un jour on va s'en sortir. Et puis concrètement, eh ben l'esprit a un deuxième côté, et ce deuxième côté, c'est il faut être pratique. Vous voyez, le rapport à la peste provoque quasiment un double esprit, une double pensée, une double conception. Mais quand on est sur le terrain, c'est la deuxième conception, la conception de l'action concrète qui l'emporte. Hein.
Bon, cette ligne d'horizon, on va en sortir. Bon, bien sûr, la situation n'est pas du tout la même que la peste noire, évidemment. Mais est-ce qu'il y a cet état d'esprit qui se conjugue avec, effectivement, l'action, on le voit bien, avec le vaccin?
Ah bah aujourd'hui, on a exactement ça. Alors là, à nouveau, on a deux types d'états. On a des états dans lesquels les structures médicales et tout sont énormément en retard. Et là, les églises continuent à jouer un rôle d'épauler. L'église catholique a mis plusieurs dizaines de milliers de lits aux dispositions du gouvernement indien dans le mois de juin, mai-juin 2020, pour faire face à l'épidémie. Hein ? Vous avez toujours un certain nombre de religieux, de religieuses qui sont dévoués, mais ça, c'est un peu le côté anecdotique dans nos États occidentaux. Et dans nos États occidentaux, là, à nouveau, il y a, pour les croyants, une espèce de double discours. Un premier discours en disant, eh bien, finalement, ce qui relève des explications et des mesures sanitaires, ça, c'est l'État, ça, c'est les médecins. Et donc, avec notre foi, avec nos croyances, nos convictions, on n'a pas allé sur ce terrain. Et puis un deuxième terrain, et ce deuxième terrain, c'est donner du sens à la vie, commencer à réfléchir à l'après, commencer à renforcer la charité, les liens sociaux, etc.
Ça n'est pas l'objet de votre livre, Philippe Martin, c'est l'objet d'un autre livre que vous signez également aux éditions du Cerf sur les superstitions. Est-ce que ça a encore joué pour le Covid-19, les superstitions? Est-ce qu'elles ont encore joué un rôle?
Écoutez, pendant que je faisais ce livre, regardez les sites de vente en ligne, et en particulier les sites de vente en ligne d'amulettes. Il y a une petite amulette qui s'appelle la main de figue, qui est un point fermé avec un doigt qui sort du point, qui, depuis l'Antiquité, passe pour être un grand protecteur. Ben c'est bizarre. Hein. Pendant tout le printemps 2020, les sites de vente disaient en rupture de stock.
Ah, comme les masques. Hein.
Comme les masques, voilà. Ben oui, mais écoutez, pour moi, il n'y a pas de surprise. Hein. Dans une foule de groupes, on a vu réapparaître des pratiques qui sont des pratiques qui relèveraient de la magie. Vous avez eu des tas de recettes pour lutter contre la Covid. Vous avez des tas de prophètes autoproclamés qui ont décidé que tel attouchement permettrait de lutter contre la Covid. Vous avez dans le monde musulman des pseudo-imams. Je dis pseudo parce que c'est des gens qui s'autoproclament capables de guérir la Covid tout simplement en lisant 3 fois par jour une page du Coran. Hein. Et puis, vous avez quand même le responsable des églises médicales africaine, un monsieur qui s'appelle comme ça, voilà, président international de ça, et qui, grâce à ses scientifiques, alors vous mettez des guillemets partout, a réussi à trouver un moyen pour lutter contre la Covid. Alors, je vous passe la recette, mais...
Ah oui, il y a même il y a de la Colgate, il me semble, dedans. C'est pas celle-là?
Oui. Ça, c'est à Haïti.
À Haïti.
Voilà, il faut des poux de lit, des cheveux et du dentifrice Colgate. Je suis désolé, c'est pas de la publicité, mais voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. La peur est telle. La peur est telle face à l'épidémie que on est obligé de chercher soit des explications, soit des choses qui rassurent, soit des coupables.
Bon, heureusement, et heureusement, on n'est plus comme au Moyen Âge où les coupables, ça pouvait être les Juifs, hein, puisqu'ils certains ont été accusés de jeter de la bave de crapaud, c'est ça, mélangée avec je ne sais plus quoi, et bien sûr, ça provoquait une contagion.
Voilà, au XIVe siècle, les Juifs étaient accusés d'empoisonner les puits. Et il y a eu des pogroms, et même le pape a été obligé de dire j'excommunie tous ceux qui s'en prendront aux Juifs. Hein, parce que les programmes ont été extrêmement importants dans nos pays européens. Et puis à d'autres moments, les boucs émissaires ont été d'autres groupes. C'est-à-dire, c'est toujours la minorité, celui qui est étranger, celui qui n'est pas dans le groupe, qui est considéré comme responsable. Et ça donne des exécutions, des programmes, des choses tout à fait abominables. Et au moment du choléra, donc on est au 19e siècle en France, on a retrouvé des gens qui attaquaient des Italiens, par exemple, en disant « mais ce sont des immigrés italiens, ils nous empoisonnent parce que quand nous serons morts, ils viendront voler dans nos maisons ».
En conclusion, Philippe Martin, il y aura la mémoire de la crise du Covid-19, vous y travaillez, et puis il y a les leçons du Covid-19, et du côté des religions, ces leçons, elles sont, on les a déjà entendues d'ailleurs, hein, c'est donner à notre vie un autre sens, repenser à la mort qui a été évacuée de nos sociétés, c'est un peu tout cela à la fois.
Voilà, là, les croyants et une partie des églises considèrent que la Covid devrait nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur le fait que nos sociétés sont fragiles et qu'on a tendance à oublier les choses. Il est assez fou que les croyants, j'ai pu mener un sondage sur 700 chrétiens, et que ces 700 chrétiens, au mois de juin 2020, disent 3 choses. Ils disent, repensons à la mort, arrêtons d'en faire un tabou. La Covid nous a montré que si on pouvait accepter de ne pas avoir de messe, ne pas avoir d'enterrement, ne pas avoir de messe d'enterrement, de scène, etc. Ça, c'est un drame. Ils disent une deuxième chose, ils disent, mais bon sang de bois, le Covid révèle toutes les fragilités des sociétés. Vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des gens dans les EHPAD, etc. Et leur message, c'est de dire, la Covid nous montre que ces problèmes qui existent depuis des années, il faudrait peut-être vraiment les résoudre, parce que si on ne les résout pas maintenant, c'est des morts demain. Et puis la troisième chose qu'ils nous disent, c'est, et finalement, est-ce qu'il faudrait pas un peu de sens? Est-ce qu'il faudrait pas remettre un peu de signification dans ce qu'on fait et pas simplement avoir des sociétés de consommation?
Est-ce que ces remarques que l'on a pu effectivement entendre dans les milieux religieux, on va dire, est-ce qu'on les retrouve ailleurs, dans la société civile précisément, hors religion?
On les retrouve dans toutes les confessions. Dans l'islam, un certain nombre de femmes disent, vous voyez, nous, dans la Covid, on a été actives. Donc peut-être que quand les temps seront redevenus plus paisibles, faut peut-être nous laisser notre place. Et quant aux États, rappelez-vous, au printemps, le monde d'après. Hein. Alors, les États, le monde d'après, il a duré combien de temps, hein? La deuxième confinement de l'automne 2020, on parle beaucoup moins du monde d'après. Et on a des églises qui restent à l'heure actuelle les derniers à se dire « il faut qu'on tire des leçons de la crise ». Les États ont l'air enlisés dans l'économique, ce qui est leur rôle, pour ne plus penser à ce monde d'après. Et les religions et les croyants, quels qu'ils soient, disent « Profitons-en, prenez-en comme une leçon et essayons de changer.
Je vous remercie, Philippe Martin. Ce sera la conclusion de notre échange. Je rappelle le titre de votre livre, « Les religions face aux épidémies, de la peste à la Covid-19 », et c'est publié aux éditions du CERF. Merci.
Merci.
Il faut faire en sorte que les terroristes ou les islamistes n'exploitent pas souvent les conflits de moindre importance pour pouvoir instrumentaliser un peu ces conflits pour que ça devienne des conflits interreligieux. Si une religion se sent toujours marginalisée et attaquée, dans 10, dans 20 ans, il n'est pas exclu qu'il y ait des milices qui se réclament d'une telle religion et qui prennent des armes pour pouvoir se défendre. Donc, il faut renforcer la coopération entre les différentes religions, le dialogue interreligieux, surtout à travers le document fondamental sur la fraternité humaine que le pape François vient de signer avec le grand imam de El Azhar.
Les violations de la liberté religieuse en nette aggravation dans le monde, c'est la conclusion du 15e rapport de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, rapport présenté cette semaine à la presse avec la présence en visioconférence du père Victor Ouédraogo du Burkina Faso que nous venons d'entendre. En ligne, le directeur de l'AED France, Benoît de Blanpré. Bonjour.
Bonjour Geneviève.
Ce rapport donc concerne 196 pays et il pointe des violations dans 62 pays, soit un pays sur trois concernés contre un pays sur cinq en 2018. Quelles sont les explications, Benoît de Blanpré?
Alors, les explications, elles sont nombreuses et le premier constat qu'on fait, je le fais avec vous, c'est qu'effectivement, depuis deux ans, malheureusement, cette liberté religieuse dans le monde, elle ne s'est pas améliorée. Une des raisons majeures que nous pointons, c'est la dégradation de la situation dans de nombreux pays d'Afrique où la situation est très préoccupante. Et nous disons que sur les 54 pays africains, aujourd'hui, dans 23 d'entre eux, la liberté religieuse n'est pas pleinement respectée et beaucoup de croyants ne peuvent pas librement exprimer ou vivre leur foi.
En grande partie due, on pense bien sûr au Sahel, au pays du Sahel, à la montée du djihadisme.
Exactement. Donc la région la plus touchée dans l'Afrique subsaharienne, c'est cette région du Sahel qui est véritablement devenue le deuxième épicentre mondial du terrorisme islamiste. Alors on pense particulièrement au Burkina Faso, on a entendu le père Ouédraogo, mais aussi le Cameroun, le Nigeria, dont on entend souvent parler avec les exactions de Boko Haram. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une exportation de l'extrémisme islamiste qui vient des plaines d'Irak et de Syrie, et ils sont venus dans cette région du Sahel pour s'associer à des groupes criminels locaux et pour en quelque sorte mutualiser leurs forces et pour déstabiliser ces régions et être, si j'ose dire, plus efficaces.
Vous parlez effectivement d'une aspiration à installer des califats transcontinentaux.
Oui, c'est ça. C'est qu'avant, l'extrémisme islamiste, on le trouvait au Moyen-Orient. Et puis, la situation s'est légèrement stabilisée dans cette région. Mais cette idéologie, elle a continué à se répandre dans le monde, notamment à travers les réseaux Internet qui permettent très facilement d'exprimer cette propagande et cette idéologie. Et elle vient rejoindre des aspirations qu'on peut retrouver notamment dans ces pays d'Afrique où, vous le savez, il y a une grande pauvreté, il y a la corruption, il y a des États souvent qui sont faibles, il y a parfois des jalousies ancestrales entre des éleveurs ou des agriculteurs, il y a les changements climatiques qui apportent du désordre. Et toutes ces conditions, c'est un terreau fertile pour le recrutement d'extrémistes, notamment de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas confiance en l'avenir, qui n'ont pas d'argent, et avec des promesses de richesse, avec des promesses de pouvoir, les groupes djihadistes peuvent facilement les manipuler et leur demander de rejoindre leur rang au prix du sang.
Alors, au cours de cette conférence de presse, on a pu effectivement entendre l'appel du père Ouédraogo qui dit en clair, il ne faut pas effectivement que la religion soit instrumentalisée parce que là, effectivement, c'est un baril de poudre dans ces cas-là.
Mais Exactement. Et vous savez, ces tensions qu'on trouve notamment au Sahel, j'ai envie de dire, c'est rarement pour des questions théologiques, hein. On est vraiment là juste sur une excitation de mots. Et on en a parlé de la pauvreté, et du coup, les extrémistes, ils viennent exciter ces difficultés, ils viennent s'asseoir sur ce terreau fertile, et ils en font le prétexte. Pour tout simplement déstabiliser des pays et puis acquérir de nouvelles zones géographiques.
Alors, la pandémie de Covid-19 a par ailleurs aggravé la situation, enfin, c'est ce qui ressort de votre rapport, la situation des minorités religieuses, notamment en Asie. Et là, effectivement, ça rejoint le rapport de l'ONG Portes Ouvertes, qui, comme vous, évoquait au Pakistan des distributions alimentaires moins grandes auprès des minorités religieuses, notamment les chrétiens.
Voilà, c'est exactement ça. C'est que c'est une des découvertes ou une des confirmations de ce rapport, c'est que cette épidémie mondiale, ben forcément, elle a eu des répercussions dans le monde entier. Elle a contribué à détériorer la situation de certains croyants. Et une des raisons, c'est ça, c'est que dans certains pays, notamment avec une forte dominante nationaliste, des minorités religieuses, qui sont parfois considérés comme des citoyens de seconde classe, n'ont pas eu accès aux mêmes droits, aux mêmes aides sociales ou médicales que le reste de la population. C'est ce qu'on a pu constater dans certaines régions en Inde, au nord-est de l'Inde ou du Pakistan. C'est pas toujours dans tout le pays, mais à certains endroits, c'est effectivement des problèmes qui ont pu être rencontrés et sur lesquels il faut être vigilant, parce que la liberté religieuse, elle peut être grignotée, vous voyez, de petites façons comme ça, où on retire des droits à certaines minorités parce qu'elles n'appartiennent pas à la confession majoritaire. Et c'est le but de notre rapport, c'est de dénoncer ces injustices et de dire qu'il faut absolument être vigilant.
Alors, ce rapport concerne essentiellement les minorités chrétiennes ou bien est-ce qu'il concerne effectivement aussi les autres minorités? Là, on pense aux Ouïghours en Chine.
Bien sûr, on parle vraiment de toutes les situations, de tous les lieux dans le monde où la liberté religieuse, quelle que soit la confession, n'est pas respectée, c'est bien l'objet de ce rapport. Donc, on évoque évidemment les Ouïghours, ou on l'évoquait à l'instant, en Inde, les minorités musulmanes qui n'ont pas accès aux mêmes droits que la majorité religieuse. Et si nous parlons de l'ensemble des religions, c'est que nous croyons fondamentalement à l'AED que la liberté religieuse, c'est un bien fondamental, c'est un bien précieux pour le monde et que, bien sûr, notre mission première, nous, c'est de défendre les chrétiens, mais si cette liberté religieuse est nécessaire pour les chrétiens, eh bien évidemment, elle est nécessaire pour toutes les religions. C'est un bien qui doit être respecté pour chacun. Chacun doit pouvoir être respecté dans ses convictions les plus intimes et c'est ce que nous voulons défendre pour toutes les confessions dans le monde.
Et d'ailleurs, c'est un indicateur, bien sûr, de l'état de la démocratie.
Exactement. Nous pensons que la liberté religieuse, et le père Victor Ouédraogo l'a souligné, c'est un bien universel et c'est un droit de l'homme. Et qu'il faut défendre cette liberté, parce que sans liberté religieuse, sans capacité pour les confessions à discuter les unes avec les autres, alors il ne peut pas y avoir de paix et du coup il ne peut pas y avoir de démocratie.
Je vous remercie Benoît de Blanpré. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de l'AED France et que l'on peut retrouver, je suppose, votre rapport, le rapport de l'AED en ligne.
Exactement, sur notre site internet www.aed-france.org. Vous retrouverez à la fois un film qui synthétise les conclusions de notre rapport et puis télécharger le document de synthèse.
Merci Benoît de Blanpré, merci. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.